Diffusion du bouddhisme au-delà de l'Inde. Le bouddhisme finit par s'éteindre en Inde. Mais cette fin ne se produisit pas avant qu'il n'ait planté d'innombrables graines dans d'autres pays, qui finalement prirent racine et fleurirent, donnant naissance aux diverses traditions bouddhiques reconnues aujourd'hui. Avant son déclin et sa fin au terme du premier millénaire, le Sangha indien fonda de nombreux monastères et plusieurs grandes universités monastiques qui cultivèrent, pratiquèrent et enseignèrent la philosophie bouddhique non seulement aux Indiens, mais aussi aux érudits et aux moines en visite qui venaient de l'Asie du Sud-Est, du Tibet, de la Chine et peut-être même du Japon et de la Corée. Ces invités rentrèrent chez eux avec de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et surtout des prises de conscience qui inspirèrent leur propre génération et les générations ultérieures de chercheurs spirituels.
Comment juger de l'authenticité des enseignements ? Le bouddhisme Mahayana est-il une authentique expression de l'enseignement d'origine du Bouddha ? 400 ans au moins séparent la vie du Bouddha Shakyamuni de l'apparition des plus anciens sutras Mahayana. Pourtant, ces sutras décrivent Shakyamuni et d'autres personnes qui lui sont associées, Ananda et Shariputra par exemple, comme étant des participants actifs. Shakyamuni est souvent l'orateur principal, parlant dans le Sutra du Lotus des innombrables Bouddhas résidant dans l'espace ou décrivant encore les merveilles de la Terre pure d'Amitabha dans les Sutras de la Béatitude Suprême et de la Terre pure. Mais comment un moine écrivant en l'encens aurait-il pu décrire avec précision ce qui se produisit, du moins le croit-on, 5 siècles auparavant ? Certains affirment que le moine a dû tout simplement inventer ses histoires, c'est-à-dire qu'il a dû écrire ses propres idées et en attribuer la paternité au Bouddha. Pour les gens qui adhèrent à ce point de vue, et ils sont nombreux, les sutras Mahayana sont des faux. Pieux, certes, mais des faux quand même. Les discours rapportés dans le canon pali du bouddhisme Theravada font l'objet du même examen critique. Eux aussi furent écrits plusieurs siècles après les événements qu'ils décrivent. Mais dans leur cas, on accepte généralement que ces suttas, pour utiliser l'orthographe pali, furent transmis oralement pendant des siècles par des moines après que les premiers d'entre eux les eurent entendus du Bouddha lui-même. Donc, bien que certains changements dus à leur longueur et à la langue se soient produits à travers les âges, il est assez plausible que les écritures Theravada reflètent de façon authentique ce que le Bouddha a vraiment dit. Pourrait-on en dire autant des sutras du Mahayana dont les descriptions fantastiques et le style fleuri sont si différents de ceux des sutras du Theravada, plus sobres et terre-à-terre? Et si les sutras Mahayana rendaient vraiment avec précision ce que le Bouddha a enseigné, pourquoi les écritures Theravada ne mentionnent-elles aucun des événements décrits dans les sutras du grand véhicule? Il n'est pas facile d'apporter des réponses à ces questions, et les lecteurs les plus modernes accueilleraient probablement avec scepticisme certaines des réponses traditionnellement apportées par les tenants du Mahayana. Par exemple, certaines sources Mahayana affirment que tandis que le premier concile était organisé à Rajagaha, un rassemblement séparé et bien plus important était tenu sur un autre site, où les grands bodhisattvas qui étaient présents auraient récité et authentifié l'enseignement Mahayana du Bouddha. Alors, comme cet enseignement était trop profond pour être compris correctement par la plupart des disciples, les bodhisattvas les dissimulèrent jusqu'à ce que l'heure soit venue de les révéler, comme lorsque Nagarjuna rapporta du pays des Nagas les sutras de la perfection de la sagesse. Même si les détails de cette légende sont difficiles à avaler, l'idée de départ n'est pas si invraisemblable. Le Bouddha a certainement pu penser qu'il était nécessaire que plusieurs siècles s'écoulent avant que les gens ne soient prêts à se consacrer au mode de vie du Bodhisattva, et il est possible qu'il n'ait révélé les préceptes Mahayana qu'à ceux qui étaient prêts à les recevoir, avec l'avertissement de ne les transmettre qu'à un petit nombre de disciples sélectionnés. Plus tard, lorsque l'heure serait venue, un génie spirituel comme Nagarjuna ou Asanga pourrait alors diffuser cette partie de l'enseignement. Le Dalai Lama, dont il est difficile de contester l'autorité, ne trouvez-vous pas, a même affirmé qu'il n'était pas nécessaire que le Bouddha ait donné l'un de ses enseignements durant sa vie parmi les hommes pour que cet enseignement soit authentique. Ce que veut dire le Dalai Lama, c'est qu'un être éveillé ne disparaît jamais réellement. Son inspiration est toujours accessible à ceux qui sont prêts à la recevoir. Vous pouvez aussi aborder cette question de l'authenticité d'une autre manière. Le Dharma du Bouddha n'est pas une chose statique. Comme un grand arbre, il pousse et fleurit avec le temps. Ce que le Bouddha a enseigné il y a 2500 ans, c'est comme la graine d'un arbre et les différentes traditions, y compris la tradition Mahayana, sont les fleurs et les fruits qu'il porte. Sous cet angle, il importe peu que Shakyamuni ait ou non prononcé les paroles qu'un sutra particulier lui attribue. Au lieu de vous en préoccuper, il vaut mieux chercher si les leçons de ce sutra, si on les met en pratique, sont cohérentes avec les objectifs du reste de l'enseignement. Si elles mènent à la cessation de la souffrance, l'ouverture de votre cœur aux autres et la réalisation de votre vraie nature, vous pouvez alors avec assurance considérer qu'il s'agit d'une leçon du Bouddha plein de compassion.